de son lit. J'ai dans mon ventre une enfant qui pleure et qui ne sait rien pourtant du bonheur. J'ai dans mon ventre une enfant écrasée par les fleurs au plafond, par le blanc de l'évier, les morceaux d'une voiture explosée dans une ville de Méditerranée. C'est une enfant que jamais su demander, et c'est rien que rire et pleurer. Je t'aime, garde-toi. Je t'aime, garde-toi. J'ai dans mon ventre une enfant qui embrasse et caresse comme si c'était pour en mourir. J'ai dans mon ventre une enfant qui pleure de joie sur la peau qui l'accueille et dit garde-toi. Cet enfant ne sait pas parler, elle dit n'importe quoi. Tout à l'heure elle sera brisée sans savoir de quoi. C'est une enfant que jamais su demander, et c'est rien que rire et pleurer. Je t'aime, garde-toi. Je t'aime. Elle dresse l'oreille, elle choisit, elle a compris, elle garde-toi. Dans l'œuf du rêve, elle commande le cinéma, met en scène son trépas. Elle ne mange ni caviar, ni cœur de rat.
Bienvenue sur Micro-ondes 94, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne.
Café bancal au Cap Amiral, Jean-Guy douceur songe à sa belle, tout en dentelle, ses yeux de ciel, à la marine de Balioquin, aux chiens qui toussent, Punta Veracruz, Jean-Guy douceur boit le temps qui passe, il a le cœur à marée basse. Jean-Guy la mer, c'est un coup de vent dans un rêve de loupio, c'est le tour de la terre qui s'évanouit
au fond d'un lit. Le trois mâts souvent, c'est qu'un rocchio. Jean-Guy la mer, ça prend comme ça, on se fait capornier, je te promets sur l'enfer.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89.4 et suite à un petit problème technique pour la passation du jingle, eh bien, on ouvre directement l'émission avec nos belles voix dans un studio bien rempli, puisque cet après-midi, dans cette émission micro-ondes, émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne, nous avons nos camarades des travailleurs de l'éducation du Val-de-Marne qui sont là en force. Bonjour Amélie, bonjour Alban, bonjour Antonio.
Bonjour.
Bonjour.
Salut Aimable.
Et donc à la technique il y a Sylvain et puis là au micro Aimable pour le syndicat de la métallurgie en Val-de-Marne. Voilà, donc au programme de cette émission, deux parties. Une première qui va être un peu un retour sur les événements du premier semestre 2023 au niveau syndical avec le mouvement des retraites. On y revient parce que justement dans le Val-de-Marne, on a fait une réunion publique le samedi 7 octobre sur la question du syndicalisme, à la fois parce que ça nous paraissait pertinent suite au mouvement des retraites, et puis avec toutes les questions que ça posait, les limites du syndicalisme institutionnel, etc. Donc c'est une constante de se reposer les questions, et nous, à la fois en tant que syndicalistes révolutionnaires, parce que voilà, c'est rien n'est acquis, bien loin de là, et se reposer de façon permanente les questions, c'est aussi une façon d'avancer. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, nos camarades de l'éducation ont prévu une tranche importante de l'émission sur le syndicalisme dans le cinéma. Alban, tu veux peut-être nous présenter un peu...
Alors, je vais peut-être préciser, c'est pour qu'on soit bien clair, c'est pas le syndicalisme dans le cinéma, mais plutôt la vision que le cinéma a du syndicalisme. Ah, voilà, donc on se focalisera notamment sur des films de fiction et pas sur des films documentaires.
D'accord, très bien. Ça, c'est donc Amélie et Antonio qui développeront toute cette partie-là. Alors, avant d'entamer... disons les hostilités entre guillemets, rappeler que donc l'émission micro-ondes est une émission qui a lieu tous les cinquièmes dimanches de l'année, et donc ça nous fait à peu près 4 émissions dans l'année, donc c'est très difficile de nous suivre régulièrement, il faut prendre son agenda. Alors pour ceux des auditrices et auditeurs qui en ont un sous la main, peuvent noter la prochaine émission qui a lieu. On a une très bonne date, c'est le 31 décembre, on peut pas la louper, à 15h30, de 15h30 à 17h. On peut même l'écouter sans faire l'impasse sur le réveillon, donc tout va bien. Alors, sinon, pour les permanences syndicales, juste avant de commencer, on a des permanences syndicales donc dans le Val-de-Marne, tous les vendredis de 17h30 à 19h à la Bourse du Travail de Choisy. Donc c'est au premier étage, l'adresse c'est 27 boulevard des Alliés. Ces permanences ont lieu toute l'année, sauf vacances scolaires. Mais on peut également joindre la CNT en général, et même la CNT du Val-de-Marne aussi, on peut la joindre aux permanences régionales de la CNT au 33 rue des Vignoles, Paris 20e, tous les lundis de 14h à 17h, tous les mercredis de 18h à 20h, et tous les samedis de 10h à midi. Voilà. Alors, avant de démarrer l'émission proprement dite, on fait une pause musicale.
Thank you.
burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je vous laisse liquider ma vie de ma spécialité, de ma tête de son sort. Je vous laisse mon nom, je suis navire, caravan, vous de la Chine, c'est monsieur Mauritania. Oui, j'ai un bâche de Gaisir, regardez à quel ouah, voilà, ouah.
Radio Libertaire 89.4 dans l'émission CNT Micro-ondes, l'émission des syndicats CNT du Val-de-Marne. Alors, le samedi 7 octobre dernier, donc ces mêmes syndicats avaient ouvert un débat public sur à la Bourse du Travail de Choisy sur la question débat quel syndicalisme, hein, puisque on venait de vivre pratiquement 6 mois de l'année 2023 à l'heure syndicale. Hein. C'était quand même suffisamment important depuis très longtemps que le syndicalisme était dénigré, qu'on le considérait comme étant fini, disons, dans l'histoire sociale du pays. Le fait que, même tel qu'il est, il ait pu être dans l'actualité sociale aussi longtemps et de façon importante et crédible, ça nous paraissait important d'y revenir avec les critiques qu'on pourrait apporter, mais les critiques qu'on se veut constructives, hein, parce qu'il s'agit de ne pas tuer le syndicalisme, il s'agit de, pour nous, penser le syndicalisme peut-être autrement. Hein, c'est, mais dans tous les cas, le syndicalisme pour nous a une entière vocation et une entière disponibilité à changer le monde. Hein, chose que les syndicats, sur la question, les plus traditionnelles, laissent cette partie-là aux politiques, hein, en général. Et donc, pour nous, c'était l'objet de ce débat, c'était quel syndicalisme, celui de la défense des acquis, ou celui de la transformation sociale, hein, parce que ça nous on pense, hein, à la CNT que c'est si on veut changer le monde, si on veut s'emparer des entreprises à ce qu'elles produisent autre chose qu'on leur demande de produire aujourd'hui, il faudra, si on veut s'en emparer, il va falloir s'en occuper. Hein, c'est pas, on peut pas laisser ça aux politiques. Et donc, pour nous, il y a quand même cette dynamique entre les, entre ces deux façons qui sont concomitantes, c'est celle de la défense aujourd'hui des intérêts moraux et matériels de la classe ouvrière, et en même temps, faire en sorte de penser une transformation sociale.
Voilà. Bah, tout à fait. Moi, je pense que c'est ce qui définit l'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans cette vision de syndicat de service où on est là pour régler des problèmes individuels pour certaines personnes qui ont besoin hein, qu'on les aide. Hein. Ceci est important. Mais on s'inscrit beaucoup plus dans un projet, dans un programme. Appelons un chat, hein, dans un programme qui est à long terme et qui est pas uniquement le fait de régler les problèmes individuels, mais de régler un problème qui est beaucoup plus gros, global, qui est un problème de société et surtout de système. Aujourd'hui, je pense personnellement qu'il est difficile de pouvoir vouloir un progrès, une amélioration de nos conditions de vie sans remettre en question le système capitaliste parce qu'il est à l'origine, et on le voit aujourd'hui, c'est bien flagrant, il est à l'origine véritablement de tous nos problèmes, que ce soit des problèmes climatiques, que ce soit les problèmes d'inflation, que ce soit les problèmes des salaires. On voit très bien que ce qui est à la base de tout ça, c'est le profit, et c'est le profit du plus petit nombre des personnes qui ont déjà tout, qui ont déjà tous les capitaux et tous les pouvoirs réunis dans leurs mains. Ce n'est pas en changeant les individus qui sont au sommet de cette pyramide que ça va changer les choses, c'est bien un système qu'il faut changer. Or, pour pouvoir changer un système, pour ça, il faut des solutions collectives, il faut des solutions qui se font au niveau pas que national, même international.
Oui, il faut absolument des alternatives, et pour qu'elles soient crédibles, il faut arriver à aller vivre aujourd'hui, dans les combats qu'on mène aujourd'hui. C'est-à-dire que les combats qu'on mène aujourd'hui pourraient nous conduire, si nous savons les conduire, pas forcément avec que des victoires, mais dans notre capacité collective à avancer ensemble, c'est ce qui va nous permettre, éventuellement, d'être cette alternative crédible que tout le monde attend. On ne sait pas si tout le monde l'attend, mais dans tous les cas, qui puisse changer considérablement les choses. Et c'est prendre notre destin en main. Hein. C'est le destin collectif en main pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est devenu difficile à faire entendre et à faire passer, dans le sens où il y a quand même d'une façon générale, une attente que d'autres, que des chefs, que des partis d'avant-garde, etc., nous trouvent des solutions pour nous. Et ça, c'est... c'est dans l'histoire du monde et c'est dans l'histoire de la classe ouvrière aussi, où il n'y a pas suffisamment cette volonté de partir de ce qu'on est, du réel de ce qu'on est, globalement, individuellement et collectivement, pour avancer ensemble. Et là, pour revenir à des choses concrètes qu'on a vécues, la question des 64 ans, ça a été la question concrète qui nous a réunis, quelque part. Alors, c'était certainement insuffisant, etc., mais c'est ce qui nous a réunis, et c'est ce qui a permis, depuis très longtemps, guider cette prise de conscience sur un certain nombre d'autres sujets qui en ont découlé. Et ça, c'est quand même c'est un fait qu'il faut noter. On peut en noter, enfin moi, chacun aura noté les siens, mais dans ceux qu'on a notés, par exemple, qu'on a pu noter, c'est le fait d'arriver à ne plus concevoir la vie qu'à travers le travail. En particulier le travail salarié. C'est-à-dire que se laisser une marge supplémentaire possible et disponible en fin de carrière professionnelle d'avoir plus de temps pour faire ce qu'on n'a pas eu le temps et ou la volonté ou les capacités de faire pendant qu'on était au travail. Donc, parce que le travail, semble-t-il, ne remplit pas toutes les, tous les critères pour nous satisfaire, hein, pour nous émanciper et pour, voilà. Donc, du coup, la question de, voilà, ça a été posé. Et puis, pour nous, ce qui a été important aussi, c'est quel contenu, pourquoi continuer de travailler aussi longtemps pour un travail dont le contenu, le final, nous échappe la plupart du temps. Hein, en particulier dans le secteur privé, il y a beaucoup de domaines où la question du travail, elle nous échappe. Il est morcelé, il est diffusé, etc. Donc, nous aussi, il y a dans le syndicat dans la métallurgie, il y a quelque chose qui nous taraude en permanence, c'est que de peu, de près ou de loin, c'est rare l'entreprise métallurgique en France et dans le monde qui ne travaille pas de près ou de loin pour l'armement, par exemple. Et ça, c'est quand même c'est un problème fondamental. C'est une question comment nous, en tant que travailleurs, qu'on soit du simple ouvrier ou à l'ingénieur, on est une partie de notre travail ou toute partie de notre travail puisse être utilisée à des fins guerrières, à des fins mortifères, etc. Donc ça, c'est... Et qui dit, pour nous, ce qui nous concerne, l'armement, etc., mais également, comme tu le signalais aussi, pour toutes les questions, toutes ces fabrications qui nuisent pour l'environnement, le climat, etc.
Bien sûr, mais je pense que aussi ce que tu as soulevé, Aimable, est important parce que sur les piquets de grève de ce premier trimestre de l'année 2023, la discussion qui était engagée, et ça c'était très intéressant, c'était on s'est bien rendu compte que les 64 ans, c'était une première porte, mais ce n'était pas l'aboutissement même de toutes les revendications. Ça allait beaucoup plus loin dans la discussion. Ça allait beaucoup plus loin parce que déjà, personnellement, je connais pas les éboueurs qui s'occupent de mes poubelles quand ils viennent les ramasser. Maintenant, je les connais grâce à ce mouvement-là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir mettre de l'humain derrière des services, derrière des choses qui sont transparentes. Parce que ces personnes-là, pour nous, on ne les voit pas. Elles viennent toujours à un moment où on ne les voit pas, à une heure où on ne les voit pas. Elles se font discrètes, comme les femmes de ménage, comme beaucoup de professions qui sont plus qu'essentielles, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre vie quotidienne. Et à travers ça, on a pu du coup commencer à parler de la pénibilité du travail et de se rendre compte que plus le travail était pénible, moins il était payé. Mmh. C'est quand même une corrélation qui est un peu problématique si on veut être humain. Si on veut avoir des valeurs humaines, c'est quand même incroyable qu'on se rende compte que quelqu'un qui a une pénibilité telle que femme de ménage, où c'est de plus en plus dur avec l'âge de se baisser, de ramasser des choses lourdes, je parle même pas des personnes qui travaillent aussi pour les personnes âgées ou dans les services médicaux ou les infirmières ou les aides-soignantes. C'est pareil, il y a une pénibilité qui fait qu'on peut pas aller jusqu'à 64 ans. Et ce sont en plus des métiers qui sont très peu rémunérés. Donc il y avait ce problème de la pénibilité et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait aussi le problème du sens de la vie parce que le travail, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la seule chose qui donne un statut à un être humain, c'est la seule chose qui produit quelque chose, c'est notre travail. La preuve, il va falloir que maintenant, les personnes qui touchent le RSA, pour justifier de leur existence, juste de leur existence, il faut qu'elles aillent quand même travailler pour avoir le droit d'avoir un tout petit peu d'argent. Or, nous, ce qu'on défend à la CNT, c'est justement une autre vision de la société. C'est une vision qui dépasse ces bornes-là, qui dépasse cette vision du travail comme étant... Et pourtant, on a le T de travailleur hein, dans CNT, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. C'est que la production, ce n'est pas uniquement par le travail et que la vie, ce n'est pas uniquement par le travail. Ce sens qu'on peut donner à notre existence, à notre vie, il n'est pas monopolisé par le travail salarié, le travail qui a été mis en place, non pas par les classes qui gèrent ce travail-là, mais par les instances supérieures, à savoir le patronat ou l'État. Et un projet de syndicalisme révolutionnaire, anarcho-syndicalisme, c'est justement de remettre en question cette vision-là du travail pour en donner une vision beaucoup plus noble. Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est-à-dire que on a quelque chose de où c'est le travailleur lui-même qui va définir la base du fonctionnement du travail et du pourquoi du comment de cette production. Et là encore, quand on revient sur les problèmes climatiques aujourd'hui, c'est une chose que j'ai tendance à beaucoup dire en ce moment. Mais bon, aujourd'hui, j'ai le droit de le dire à l'antenne, donc je vais pouvoir le répéter. Quand on parle d'environnement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la consommation, mais on parle jamais de la production, très peu finalement. Et cette production, elle est aussi, voire plus importante dans l'émission de des gaz à effet de serre, dans tout ce qui est tout ce qui pollue notre planète. La production, c'est énorme ce que ça peut produire comme pollution. Or, on n'en parle quasiment pas, voire dès qu'on utilise le mot décroissance, mais on a l'impression d'être le pire extrémiste qui existe sur cette planète. Or, l'autogestion, c'est ça. L'autogestion, c'est pouvoir gérer à la fois la production, la distribution et donc la consommation. S'il n'y a pas cette mainmise par les personnes qui sont les producteurs, à savoir les travailleurs, sur la gestion de la production et de la distribution, on va droit dans le mur, puisque ceux qui vont gérer ça, ce sont forcément ceux qui ont des intérêts personnels et non pas les travailleurs qui, eux, ont des intérêts communs.
Oui, c'est la question du travail salarié, c'est pas la question du travail en lui-même, c'est la question de son salariat qui pose problème, parce que le travail, si on et il y a cette quête-là, on le sent dans des tas de personnes qui se plaignent de leur travail, ils se plaignent pas ils se plaignent de ne pas pouvoir le bien faire. La plupart des travailleurs, c'est ça. Plus, même des fois, que la question des salaires, que la question, que d'autres questions, c'est la question, mais en particulier, on pense aux travailleurs qui sont au service du bien commun, qui sont au service du public, etc., qui sont au service de la santé, de l'éducation, etc. Vous êtes bien placés pour en parler. Une des questions fondamentales, mais on voudrait le faire correctement, avec du temps, des moyens, etc., et on ne peut pas le faire. Et ça, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement négatif, et c'est enlever de la dignité aux travailleurs. Parce que, en tant que travailleur, avoir la dignité du travail bien fait, eh bien, ça lui donne de la force, à la fois personnelle, mais collective, vis-à-vis de ceux qui l'emploient. Et donc, il y a tout un travail managérial. Et là, on peut, je pense que là, quelle que soit l'administration, quel que soit le secteur privé, c'est de casser ça. Il s'agit de casser le travail ne doit être que soumis, subordonné, à une heure, à un euro, à l'euro, au dollar, etc. Et peu importe le résultat pour le public. Et ce qui est important, c'est que le travailleur en tant que tel ait perdu la mainmise sur son travail. Et ça, c'est quand même, et dans le privé, c'est particulièrement vrai, à cause de l'automatisation des moyens de production. C'est-à-dire que là, les machines à commande numérique, il y a des ingénieurs qui les programment, etc. Et puis la personne qui est sur la machine, en fait, elle est là que pour appuyer sur un bouton, etc. Et donc là, et tout le monde y a perdu. L'ingénieur y perd aussi, et puis le travailleur aussi. Tout le monde y perd. Et ceux qui gagnent sont toujours ceux qui ramassent la monnaie.
Ceux qui ne perdent jamais. Voilà. Ceux qui ne perdent jamais, parce que même en cas de crise, les investisseurs se débrouillent toujours pour avoir un filet et donc ne jamais perdre ce qu'ils ont investi comme argent. Donc ils ne sont jamais perdants. Ils ne sont peut-être pas aussi gagnants que ce qu'ils voudraient, mais ils ne sont jamais perdants. Mmh. Ceux qui perdent, ce sont véritablement ceux qui sont à engager dans cette transaction, à savoir les travailleurs. Mmh. Parce qu'on ne va pas reparler de toute l'histoire de la pensée socialiste au sens premier du terme, mais il est de fait de quoi vit l'homme, disait Brecht, il vit de l'homme. Et c'est justement là où le profit va pouvoir vraiment avoir toute sa dimension, c'est dans l'exploitation du travailleur. Le reste, en fait, c'est de la plus-value, de la finance qui va être alimentée par ce travail des êtres humains. Et c'est l'être humain, en fait, qui est ressource de richesse, véritablement. Plus que le matériel, finalement. Donc, tout le travail qui va être donné en plus, cette valeur travail qu'on va avoir aussi bien d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue temporel. Mm-hmm. Parce que le temps, c'est de l'argent. Hein. Ça, c'est pas moi qui vais vous le rappeler. Tout ce qu'on va pouvoir donner au niveau temporel comme travail, ça va être de la plus-value pour les personnes qui nous exploitent. Et faut savoir que c'est ça aussi, se battre pour son salaire, c'est aussi se battre pour son temps. Non pas de loisir, parce que c'est pour son temps de vie. Son temps de loisir, le loisir, ça fait partie de la vie, mais c'est pas... Voilà, moi, je suis désolé, je vais pas faire le ménage et nettoyer mes chiottes sur mon temps de travail, je le fais sur mon temps de loisir. Est-ce que c'est un loisir ? Bah non, on vient d'en parler tout à l'heure, ce n'est pas un loisir, c'est aussi un travail. Donc, mais c'est un travail quotidien qui est nécessaire pour que je vive en bonne santé chez moi. Et ben ça... Ce moment-là, c'est un moment qui nous est volé parce qu'on considère, nous est volé par le patronat, nous est volé par l'État, parce que, je parle de l'État parce que mon patron, c'est l'État en tant qu'enseignant, parce qu'on considère que ce temps-là, c'est du temps de loisir. Or, non, c'est du temps de vie, c'est du temps de vie qui est nécessaire, c'est du temps de vie où je produis quelque chose, je produis de l'hygiène, de la propreté, pour pouvoir vivre dignement sans tomber malade. Voilà, donc...
Donc, on était... Alors... On était bien partis. Hein. Moi, je veux juste rajouter encore quelques mots avant de clore le débat. Dans les, pour revenir sur le mouvement des retraites, parce que voilà, ça nous a marqué, et puis je pense que ça, on espère ne pas être les seuls à être marqués par, avoir été marqués par ce mouvement, c'est que il a manqué au cours de ces 6 mois le lien. En particulier avec les salaires et la socialisation et avec ce que ça donnait en tant que salaire socialisé pour la retraite. C'est-à-dire que il a manqué aux 64 ans l'augmentation des salaires qui, par effet naturel, je dirais, allait remplir les caisses de la sécurité sociale, y compris celle de l'assurance vieillesse. Et donc ça, c'est vraiment ce qui a manqué. C'était une façon à la fois de faire embrayer pour les plus jeunes des salariés qui voyaient la question de la retraite très lointaine, leur faire toucher du doigt tout de suite la question du salaire, ça les concernait tout de suite, et ça pouvait aussi enseigner à tout le monde que en augmentant les salaires, on augmentait aussi les caisses, enfin on pourvoyait les caisses de la sécurité sociale, de l'assurance vieillesse, et qu'il y avait que tout le cinéma autour des 64 ans n'avait pas lieu d'être. Donc voilà, tout ça c'est les manques qui voilà auquel on a participé, parce que finalement nous on y a pensé que assez tardivement, hein, cette question là aussi la CNT y a pensé un peu tardivement, mais voilà c'est comme ça, donc il faut savoir aussi se mettre se remettre en cause et puis réfléchir pour faire plus de liens sur différents phénomènes. On a trop tendance à vouloir saucissonner les revendications les unes après les autres et non pas concomitantes, et ça fait pécher un peu tout le monde, voilà.
Mais je pense que je terminerai là-dessus, c'est que y a un truc aussi qu'on n'ose pas faire, nous, en tant qu'anarcho-syndicalistes, c'est-à-dire qu'on a du mal aussi à mettre en avant notre véritable projet, notre véritable programme, et c'est ce qui nous fait défaut, parce que souvent, on est là à calquer nos revendications et nos mots d'ordre sur ce que les grosses centrales syndicales des syndicats représentatifs font. La plupart du temps, on est quand même assez d'accord avec les revendications, hein, sauf que nous, c'est une partie du problème, et c'est pas vraiment tout notre projet. Tout notre projet ne se résume pas à l'augmentation des salaires. Notre projet ne se limite pas aux 60 ou 64 ans de retraite. Donc, comme on a tendance aussi à se calquer sur l'actualité, mais c'est normal, hein, parce qu'on est justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un syndicat dynamique où on est aussi à l'écoute de la problématique actuelle. forcément, on se retrouve à avoir des arguments qui sont un peu des fois les mêmes arguments que les autres syndicats. On essaye de dénoter des fois pour en essayant d'aller plus loin, mais je pense que là où on a réussi à convaincre sur ce mouvement des retraites, les nouveaux adhérents, en tout cas de l'éducation du Val-de-Marne, de la CNT Éducation, ça a été justement sur le fait qu'on avait un projet derrière et qu'on n'était pas uniquement un syndicat qui était là que pour les retraites. Il y a autre chose derrière. Il y a un projet de société et c'est, je pense, les personnes qui ont adhéré récemment dans notre syndicat, c'est parce qu'ils avaient cette vision aussi de ce projet de société et qui participaient volontairement à ce programme-là.
Oui, tu fais bien de rappeler ça parce que on a quand même cette satisfaction. C'est notre présence dans ce mouvement des retraites a conduit pas mal de salariés à rejoindre la CNT, donc voilà, ça c'est à noter, et c'était parce qu'on était présent, on a été présent à toutes les manifestations et de façon, je pense, suffisamment crédible, justement.
Et
pour
sur
que...
les piquets de grève aussi.
Et sur les piquets de grève, voilà, et les collectifs qui se sont constitués quelquefois, etc. Voilà.
Et même sur BFM, il paraît.
Voilà, donc c'est une première partie cette émission, voilà, qu'on a évoquée à bâton rompu et un peu rapidement, mais voilà, on tenait à le faire. Et avant d'aborder la deuxième partie, une pause musicale.
Qui va faire la transition d'ailleurs ?
Et du cheval se cabre, dans le ventre des mots brûle mon poivre noir. De l'arbre en moi résiste et du cheval se cabre. Des mots brûlent mon poivre noir.
J'ai pris un bol d'air, un regain de vie. Adossé au cimetière par cette belle nuit, le sourire de la lune se moquait des défunts. Moi j'ai pas une thune, mais j'avais ce refrain. Garçon, mets-moi ça, du bonheur, y'a qu'un.
Alors, on ne sait pas très bien si vous avez entendu de la musique, car nous n'avons aucun retour, mais il semblerait que la technique ne soit pas avec nous aujourd'hui, donc on va faire sans. On va imaginer que vous avez entendu la musique. Alors, du film
normalement, on aurait
Blue Collar.
Oui, on aurait dû entendre Hard Working Man de Captain Beefheart.
Oui.
Alors, à moins qu'on essaie de le faire a cappella, là, on essaie. Voilà, je pense
ça valait la peine d'avoir une technique qui ne fonctionne pas.
Donc, du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, Aimable et Alban. Effectivement, moi, à l'origine, je suis pas de la CNT, je viens de la FSU, et j'ai rejoint la CNT en 2020-2021, donc en tant que au syndicat donc des enseignants du 94. Mais c'est vrai que en AG, on se pose toujours continuellement la question, je pense, à la CNT, parce qu'on remet vraiment, pourquoi je suis arrivé dans ce syndicat, c'est parce qu'on remet vraiment constamment sur le tapis des questions importantes. Qu'est-ce que c'est que le syndicalisme? Qu'est-ce que c'est que pratiquer le syndicalisme? Où est-ce que j'en suis, moi, de ma pratique syndicale? Alors, c'est vrai que quand on est dans des syndicats très, très connus et reconnus, bon, là, je parle de la FSU en particulier, c'est vrai qu'on est souvent considéré par les autres collègues comme les délégués syndicaux, alors que ça, pas du tout. Et on est là pour apporter un service. Ces syndicats-là sont souvent considérés comme des syndicats de service. Alors, au travers de cette discussion, comme je suis également, par ailleurs, cinéaste, je fais du cinéma, et comme à cette époque-là, la CNT avait accueilli justement les préparatifs d'un long-métrage que j'étais en train de préparer, justement, J'ai évoqué l'idée, j'ai proposé donc d'aborder un peu la question du syndicat tel qu'il est représenté, raconté dans le cinéma. Et voilà, d'où le point de départ de cette émission. Alors là, on va, bien sûr, tu l'as souligné à tout à l'heure, pas traité du documentaire. Alors, c'est vrai que le documentaire, c'est aussi du cinéma, c'est intéressant. C'est vrai que, alors, de mon point de vue, c'est plus souvent quelque chose qui est de l'ordre du témoignage, qui est bien sûr important, hein, mais qui est peut-être moins intéressant que la fiction du point de vue de la forme. Bon, après, bien sûr, ça peut toujours se discuter, il y a toujours des contre-exemples, mais globalement, c'est ce que j'aurais tendance à dire. La fiction, c'est un peu plus compliqué. Il faut apporter un regard, il faut apporter une subjectivité, il faut apporter des métaphores, il faut essayer de faire comprendre un univers à travers quelque chose qui n'existe pas, qui est pure invention. Et pourtant, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti. Je pense que ça, vous l'avez aussi vécu. C'est parfois en regardant un film, en lisant une BD, donc une fiction, on a l'impression de mieux comprendre certains sujets qu'on a pourtant vus et revus au travers de reportages ou même en lisant les journaux. On a l'impression d'aller plus loin. Alors peut-être parce que le cinéma, justement, a cette vocation à transcender. Justement, c'est pas faire un film, c'est pas uniquement traiter d'un sujet, c'est peut-être aller un petit peu plus loin, développer un univers. Voilà, donc ça, c'était un petit peu le point de départ de l'idée de l'émission. Et alors, à cette époque-là, il se trouvait qu'il y avait le film « La syndicaliste » de Jean-Paul Salomé, qui venait tout juste de sortir, qui était dans les salles, qui à l'heure actuelle, on est arrivé à peu près à cumuler 500 000 spectateurs en salle, pour situer à peu près. Alors c'est vrai que moi, à l'époque, avant d'aller voir un film, en général, je vais sur les sites, je regarde un peu comment c'est noté. À l'époque, c'était noté 3,9 sur 5 sur Allociné. Il y avait aussi une émission de France Inter que j'avais notée au passage et qui avait titré sur un incroyable thriller et un scandale d'État pour La syndicaliste. Et c'est là où, une fois de plus, j'ai eu le sentiment de me faire avoir, parce que en voyant le film, du coup, j'étais extrêmement frustré, parce que je pense que c'est toi, Amélie, qui me l'avait dit à l'époque.
C'est ce film, quand je l'ai vu, je me suis dit, ce film aurait dû s'appeler La lanceuse d'alerte à la limite, mais pas La syndicaliste, parce que de syndicalisme, il n'est absolument pas question dans le film. Ou alors, ce que ça dit du syndicalisme, ça fait très très peur. On a le choix entre se dire ça n'en dit rien ou on ne veut pas du tout que ce soit ça le syndicalisme. Voilà, c'est une catastrophe ce que ça montre du syndicalisme. Donc à la limite, c'est une lanceuse d'alerte, on peut dire, mais le syndicalisme, non. Donc nous, on s'est posé la question de ce que c'était que le syndicalisme au cinéma ensuite, à la suite de ce film.
Qu'est-ce qui pose vraiment problème, c'est dans sa façon de montrer le syndicalisme, parce qu'on la voit quand même, la première image qu'on a d'elle, c'est elle avec son casque sur la tête, qui est en train de défendre le droit des travailleurs polonaises.
C'est pas le pire du film, tu fais ça exprès, c'est de la provocation. C'est-à-dire que très très rapidement, ce qui est montré du syndicalisme, outre le fait que c'est dans les salons, c'est être appelé par son prénom, par le ministre, et connaître le patron intimement et manger des macarons avec, que c'est uniquement ça le syndicalisme. Outre le fait que ce soit ça, la seule scène de défense de travailleurs, c'est des travailleuses d'un autre pays, d'une profession qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais exercée, où elle est envoyée sur le site 10 minutes avant d'avoir lu le dossier, et où la négociation pour ne pas qu'elle soit virée va devenir je vous propose d'être virée, mais en ayant au moins un mois de salaire ou 3 mois de salaire, puis finalement, vous êtes virée, mais vous avez une formation. Et c'est bon, j'ai gagné parce que j'ai obtenu ça. C'est quand même, et ça dure 10 secondes dans le film. C'est quand même... moi j'ai trouvé ça... je t'ai coupé en
tout cas. Non, du tout.
En tout cas, c'est moi ce que j'ai trouvé le plus difficile avec cette représentation du syndicalisme, c'est surtout que j'ai discuté du film avec des amis qui ne sont pas... qui ne connaissent pas beaucoup de choses au syndicalisme et qui m'ont dit « Oh là là, c'est génial ce travail du syndicalisme, c'est ça une syndicaliste, elle aide les gens. » Et donc, ce que je me suis dit, c'est ce film peut faire penser à des personnes qui ne sont pas très proches, ne sont pas syndiquées ou sont juste syndiquées et ne font pas très militants, que c'est ça le syndicalisme.
Ça pose aussi la question de la culture syndicale telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors on s'en rend de plus en plus compte, quand on fait des heures d'information syndicale dans nos établissements respectifs, où on voit arriver notamment des jeunes collègues qui n'ont aucune culture ou très peu de culture syndicale, qui ont l'impression que quelqu'un qui a une carte de syndiqué aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a justement le bras extrêmement long et qu'il est capable de décrocher le téléphone. Et moi, enfin, sérieusement, hein, moi j'ai même des chefs d'établissement qui s'imaginaient que moi j'avais un pouvoir particulier, que j'étais au courant une semaine ou 15 jours avant lui des informations importantes, etc. Et donc il y a plein de comme ça de fantasmes qui circulent autour de l'univers syndical. Les gens s'imaginent par exemple que parce qu'on est syndiqué, on va gravir les échelons plus vite que d'autres. Enfin, c'est assez incroyable. Donc moi, je te rejoins tout à fait. Donc le film, je l'ai trouvé également tout à fait cliché, caricatural. J'ai trouvé que la façon dont Huppert jouait dans ce film, c'était un copier-coller de ce qu'elle avait fait dans le film Elle de Paul Verhoeven, hein, quelques années auparavant. Et ça m'avait aussi fait penser au film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest. Qui là est également un film tiré d'un fait réel, puisque c'est la lanceuse d'alerte qui avait alerté, je pense que c'était Irène Frachon qui avait alerté sur la question du Mediator, mais qui pour le coup était alors tiré d'un fait réel, mais qui était un vrai film de fiction qui fonctionnait très très bien, où il y avait des vrais choix de mise en scène. Par exemple, l'actrice principale, c'est la danoise, alors je vais essayer de le prononcer correctement, Citze Babette Knudsen. Donc voilà, qui jouait le rôle pour le coup d'un médecin français. Donc du coup, c'est y avait un vrai choix de mise en scène, mais ça fonctionnait très bien. J'avais l'impression de voilà. Donc là, pour le coup, c'est pas parce qu'on fait un film tiré d'un fait réel dans le cas d'un syndicaliste qu'on parvient à faire quelque chose qui nous apprend quelque chose, qui nous fait évoluer dans notre pensée, qui enrichit notre culture et notre culture syndicale ici en particulier, quoi.
Sauf que dans le cinéma, il y a plein de films qui parlent de la lutte, parce que c'est un peu ce qu'a dit Emab tout à l'heure, il parlait du travail. En fait, on parlera peut-être dans une autre émission de la représentation du travail dans le cinéma, qui est en fait intimement liée à la représentation de la lutte, puisque dès qu'on parle du travail, on parle de la lutte, mais c'est un thème plus large qu'on abordera une prochaine fois. Il y a énormément de films qui parlent en fait de la lutte et du syndicalisme, et nous on s'est posé la question
pas trop en France, je crois,
voilà,
c'est ça,
pas trop,
c'est ce que tu voulais souligner peut-être,
oui. Mais c'est vrai que en France le travail, il est inexistant dans le cinéma. Il n'y a pas de représentation du travail dans le cinéma jusqu'à très récemment. On va mettre les années 2010 avec Un autre monde, avec tous ces films qui se passent dans l'entreprise où justement il y a une remise en question de la valeur travail, mais c'est des films très récents. Mais jusqu'à très récemment dans le film cinéma français, il n'y a pas de représentation du travail.
Il y a quelques petites exceptions, oui, comme Le dernier maquis par exemple de Rabah Emmerzheimer,
qui fait partie de ces films, voilà, des films post 2005, voilà, qui sont quand même, oui. Mais je pense que la nouvelle vague a à faire avec tout ça, mais dans les films français, on va en vacances, on rentre le soir chez soi, on parle à ses enfants, on part au travail. On parle de la sphère familiale, de la sphère du privé, du loisir, mais le travail, ce qui se passe dans le monde du travail, c'est inexistant. Les deux exceptions, c'est le travail de la police et le travail des enseignants. Il arrive qu'on le voit, et dans des vieux films d'Enclouzot, on peut voir le travail dans les hôtels. On voit un peu ce qui est de l'ordre de l'hôtellerie, très légèrement, mais au moins c'est représenté. Mais à part ces exceptions-là, jusqu'en 2005, le monde du travail, il est inexistant. Donc la lutte, elle est moyennement existante. On va voir des professeurs d'université, par exemple. Hein, chez Téchiné, on voit des professeurs d'université, mais rien de plus que le travail de l'enseignant. Alors, on est allé vers des films d'autres nationalités. Et là, on a dû réduire. On a enlevé italien, on a été obligé de réduire. Il y avait le cinéma anglais, c'était énorme. Et en fait, on s'est tourné pour commencer vers le cinéma américain. Hein, et on s'est posé la question, qu'est-ce que le cinéma qui est une culture populaire, qu'est-ce que cette culture populaire nous apprend du syndicalisme, de l'histoire du syndicalisme et de la lutte? Et on a choisi de réduire un nombre de films juste pour la première émission. On va peut-être écouter un tout petit extrait qui permet de voir l'opposition avec le film La Syndicaliste. Si la technique est avec nous.
Y a pas de raison qu'on en reste là. Fous donc bébé dans ta chanson, ça fera chanter tous les couillons. les temps sont difficiles. Si d'Aznavour j'avais la voix, je pourrais me voir au cinéma. Mais la petite vague m'a laissé là, moi qui me voyais déjà. Les temps sont difficiles. Berlin travaille de la latitude, les deux caca bossent sans filet. Ils ont paumé le nord et le sud, y a intérêt à les retrouver. Les temps sont difficiles. En Indochine, c'est bien fait.
Nous n'avons alors, aucun moyen reprendre. De savoir.
On va reprendre parce qu'on a un petit souci avec la technique. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez dû le comprendre. Donc, on reprend. Et sur le problème qui était posé, à savoir la représentation du syndicalisme au cinéma. Donc, pour reprendre ce que vous étiez en train de dire, on va notamment parler du cinéma américain. Donc, c'est aussi un syndicalisme... assez spécifique, hein, le syndicalisme américain, parce que là on va pas parler non plus d'anarcho-syndicalisme, vous vous en doutez, on va beaucoup plus parler d'un syndicalisme qui a décrété, qui a mis en place quand même une idée qu'il ne fallait surtout pas mélanger politique et lutte syndicale. Donc pour le premier film dont vous vouliez parler, c'est bien Sur les quais.
Sur les quais de Julia Kazan. En fait, nos trois films sont très dans le temps assez éloigné. Le premier est de 1954 et les deux suivants sont de 1978 et 1979. Donc il va y avoir un trou entre le premier et les deux suivants. Donc le premier, c'est un film donc de Julia Kazan qui est considéré comme un très grand film, hein, qui est un chef-d'œuvre.
C'est un film culte, un film référence, en tout cas qui a servi de référence à beaucoup de cinéastes par la suite et qui s'en sont revendiqués. Et c'est vrai que c'est aussi un film qui arrive à un moment un peu particulier dans le parcours de Kazan, parce que donc Kazan, il faisait partie du Parti communiste. Et donc
puis il a rendu sa carte.
Voilà. Enfin, et puis il a dû. On lui a demandé s'il était prêt à dénoncer un certain nombre de personnalités, ce qu'il a fait, ce qui fait qu'il s'est retrouvé un petit peu au banc du monde du cinéma. Et donc pour lui,
on est en plein macartisme. Voilà. Et on est là en 54 quand il fait ce film. Deux ans avant, il est passé devant la commission sénatoriale. Et disons qu'il a. Il y a quasiment juste aussi trois ans avant, il a fait Viva Zapata comme film, on peut dire. Il a fait des films qui ont été vraiment ancrés à gauche, avant, après. Et ce film, il arrive au milieu, c'est-à-dire au creux de sa carrière politique, on va dire, puisqu'il vient de dénoncer un certain nombre de camarades. Et il est un peu mis au banc. Et il faut voir ce film, je pense, sous cet angle-là, c'est-à-dire à la fois une espèce de dédouanement, puisque c'est un film qui parle de dénonciation. À la fois un film où il se dédouane lui-même et à la fois une volonté quand même de repartir sur montrer la lutte, mais la montrer avec un prêtre, avec de la morale, avec pour passer la censure. Donc c'est un film qui est très particulier parce qu'il est considéré comme un chef-d'œuvre. Il a eu je ne sais combien d'Oscars.
Huit Oscars.
Donc c'est un film qui est... Et à la fois, il parle vraiment directement hein, du syndicat des transporteurs et à la fois des dockers, je mélange avec Fist le suivant. Et à la fois, quand on le voit aujourd'hui, il est problématique. Il nous pose un questionnement. On peut pas le regarder de façon neutre. On peut pas se dire oh quel grand film sur le syndicalisme. Il pose beaucoup de problèmes ce film, mais il interroge beaucoup.
Il y a aussi une. On le disait tout à l'heure en introduction, la fiction, ça a aussi une dimension très personnelle. Et c'est un film très personnel pour Kazan, puisque c'est un film qui est chargé de rage. Et je pense qu'il a, c'est pas innocent s'il a choisi Brando pour le rôle. Donc c'est vraiment un cri de rage, c'est un cri de défi à la face de Hollywood. Et à travers ce film, il va prendre sa revanche. Il prend aussi le parti du sale type, puisque à ce moment-là, Kazan est dans la peau du sale type. Et c'est ce rôle que va devoir endosser Brando. Donc qui en plus va apporter donc cette une dimension innovante hein, dans sa façon de jouer. Hein. On sait comment Brando est capable de se servir de son corps comme d'un instrument.
C'est un film qui est à la fois classique, c'est un film de gangster en fait. On a oublié de le dire parce qu'on a été perturbé par la technique dans notre déroulé, mais on a choisi des films qui étaient des vrais films de fiction, qui étaient des films de genre, c'est-à-dire des films de malfrats, des films de braquage, des films qui ne sont pas censés être des films politiques au départ, mais qui, au passage... derrière une intrigue qui est un thriller ou un film noir, nous parle de la lutte dans l'usine. Et donc c'est un film de mafia, en fait. Il faut le voir comme un film de mafia. Et comme c'est un film de mafia, il montre dans ce film une adéquation parfaite, on peut dire, entre le syndicat et la mafia. C'est ça qui nous fait quelque chose. C'est le syndicat, c'est la mafia. Alors, on le verra avec le film suivant. Il y a une réponse à ça qui est faite 20 ans plus tard par Fist. Mais quand même, dans le film, au tout début, à la fin, il y a deux dialogues politiques. Au début, où les travailleurs disent « on avait un syndicat et il a été noyauté par la mafia ». Donc, ils dédouanent quand même le syndicalisme de son aspect mafieux en disant que c'est une erreur de parcours. Et la fin du film, où on a une presque grève, c'est-à-dire que tous les travailleurs arrêtent le travail par solidarité envers l'un des leurs, mais jamais le mot « grève » n'est dit. Donc, il a un contexte politique et il évite... les mots directs de la politique. Et chaque fois qu'il y a un vrai discours politique, c'est assumé par un prêtre. Et ça, c'est très perturbant aussi d'avoir un discours de collectif, de valeur collective, qui est systématiquement assumé par un prêtre. C'est vraiment... Alors
c'est vrai que le personnage du prêtre, il est quand même assez particulier dans le film, parce qu'au départ, c'est plutôt un antagoniste. Et puis, au fil de l'histoire, il évolue. On ne sait pas d'ailleurs tout à fait pourquoi. Alors, je sais que tu as une hypothèse sur la question, tu pourras nous y revenir. Mais c'est vrai que quand tu disais qu'on regarde le film aujourd'hui, qu'on regarde la fin, on voit finalement que c'est une espèce de happy end où justement le prêtre regarde dans la même direction que les ouvriers qui sont en train de se révolter contre la mafia, donc contre tout un système. Donc voilà, et c'est le sale type Brando là qui est on va dire considéré comme le héros. Alors c'est vrai quand on voit cette fin aujourd'hui, on a un petit peu de mal à la prendre au sérieux. On a un peu l'impression que c'est un peu un cliché. On se pose la question de savoir pourquoi Kazan a mis ce personnage de prêtre à la fin. Voilà, tu veux peut-être
illustrer. Moi, je pense que ce film, c'est un peu le Galiléo de Brecht, c'est un peu le film de je me dédouane d'avoir dénoncé, d'avoir et je pense qu'il a mis le prêtre vraiment pour être dans le contexte du macartisme et pour mettre un personnage qui devait assumer un discours politique, et il ne pouvait pas se résoudre à faire assumer le discours politique par un ouvrier ou par un... C'était trop... Donc il l'a fait assumer par un personnage qui était inattaquable en termes de morale de l'époque. Alors il faut quand même voir que le film, on le voit aujourd'hui, on le voit daté, on peut le juger dur, il s'inspire beaucoup du néo-réalisme italien, il est tourné à l'extérieur, il a des codes du film politique italien, enfin il est perturbant ce film, parce qu'il y a énormément de choses dans ce film qui laissent penser qu'il est dans une dénonciation de quelque chose, et il y a mis tous les éléments permettant de dire, voyez, moi communiste, non, vraiment, non. Donc je pense qu'il a mis cette figure du prêtre pour être inattaquable. Voilà, donc ce film, il est particulier quand même. Hein,
D'ailleurs, le discours du prêtre fait aussi penser à un certain discours qu'on peut retrouver notamment dans le marxisme, hein, avec cet appel à l'humain, cet appel à la morale chrétienne, hein, pour n'en citer qu'un. Je pense à Feuerbach, hein, qui est philosophe du 19e siècle, excusez-moi, et qui va dire qu'en gros le problème dans la religion, c'est Dieu, mais c'est pas la morale. La morale chrétienne est très très bien. Et on a un peu cette idée-là, hein, qui ressurgit, je pense, quand j'ai vu ce film-là, j'y ai pensé fortement. C'est-à-dire que, on est sous le macartisme, le PC, on va difficilement pouvoir mettre en avant les idées marxistes. Donc, qu'est-ce qui s'en rapproche le plus tout en étant accepté par les États-Unis, même si c'est un prêtre catholique, on est quand même dans un pays où il faut jurer sur la Bible pour pouvoir témoigner dans un tribunal. Bah oui, le prêtre devient, c'est l'opium du peuple normalement. Bah là, ça devient un peu la nouvelle voie de la pensée sociale.
Alors je précise quand même que ce film, il a été reçu à l'époque très très bien aux États-Unis puisqu'il a été nommé, enfin qu'il a eu 8 Oscars, mais qu'il a été très mal reçu en France, notamment par les journalistes de l'Humanité, qui y ont vu une attaque terrible, mais pas contre le syndicalisme, qui ont vu prôner la dénonciation. Parce qu'une des particularités de ce film dans notre corpus, c'est le seul film où la police n'est pas montrée comme étant un opposant aux travailleurs. Donc ça va nous amener vers notre deuxième film, qui est en fait une réponse à ce film 20 ans plus tard. Mais 78, la guerre du Vietnam est passée par là, beaucoup de choses se sont produites. Et le film suivant, Fist, il parle aussi de la mafia. C'est aussi un film qui parle de la mafia. Il parle du syndicat des transports. Alors, avec le syndicat des dockers, il y a une proximité aux États-Unis, mais on est en 78 et donc il en dit pas du tout la même chose. On a peut-être un petit extrait.
Je pense qu'on va pouvoir.
On va abandonner les extraits.
Une petite pause musicale.
Ok.
Oui, on va faire une petite pause musicale. Bonjour, bon bah décidément la technique n'est pas avec nous aujourd'hui, donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM, vous pouvez appeler au studio au 01 43 71 89 40 si la technique nous le permet, et donc nous sommes les syndicats de la CNT du Val-de-Marne et nous reprenons tout de suite pour parler donc de la représentation du syndicalisme au cinéma, et aujourd'hui ça sera le cinéma américain. Donc nous étions sur le deuxième film que vous vouliez nous présenter, à savoir Fist. Oui. Donc Antonio, vas-y, on t'écoute.
Alors les deux films suivants sont de 1978. Donc celui-là, donc c'est Fist, c'est Norman Jewison. Le rôle principal, c'est
Stallone,
voilà. Et donc alors moi, je sais que je me souviens avoir vu ce film tout gamin. Je crois que c'est le cas pour toi aussi, Alban.
Tout à fait. Oui.
Je sais pas, j'avais une dizaine d'années. Et c'est vrai que j'en ai gardé un souvenir assez net de ce film pour diverses raisons. La première, c'est que j'avais l'impression quand même d'avoir entreaperçu quelques aspects de la réalité de ce que pouvait être la lutte syndicale. C'est vrai que par certains aspects, là aussi, le film peut sembler un peu classique parce que ça peut faire penser un peu à un film des années 60, parce qu'on sent bien quand même la présence. Il y a beaucoup de choses qui sont tournées en studio, avec un travail quand même très 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 léché sur les décors, sur les costumes. On a un Stallone qui est quand même un petit peu un personnage comme ça, un peu peut-être on va dire pas très subtil, hein, on va dire, hein, c'est presque caricatural, mais qui porte ce rôle. Mais d'un autre côté, il y a une grande violence dans ce film. C'est quelque chose qui est assez frappant. Je trouve que c'est une entrée en matière intéressante dans fin des années 70 de faire parler du syndicalisme aux États-Unis à travers ce projet cinématographique, en tout cas.
C'est une réponse un peu au film précédent, parce que c'est un film dont le pitch, c'est de parler de ce syndicat des transports et du fait qu'il a pu avoir un lien avec la mafia. Mais tout le principe du film, c'est de parler de la trajectoire de Jimmy Kovac, qui va donner ses lettres de noblesse à ce syndicat et qui, à un moment, va être contraint de faire appel aux moyens de la mafia parce qu'il n'a pas d'autre choix et qui va obtenir des résultats en tant que syndicaliste et par le syndicat, mais aussi parce qu'il a demandé des moyens à la mafia. Donc le pitch du film, c'est ça. Il a une partie classique, ce film, parce que tout est basé sur Stallone et donc sur sa trajectoire individuelle. Donc dans les films américains, c'est très classique de montrer l'individu héros, sa trajectoire de vie, comment il s'élève, comment il part de simple travailleur, et puis comment, par une qualité personnelle qui est le charisme, il va s'élever. Donc là, il va s'élever dans le syndicat. Donc ça montre un syndicat pyramidal, dans lequel il va s'élever jusqu'à devenir le chef, en fait. Mais il y a deux éléments quand même qui en font, qui lui donnent beaucoup de valeur et qui en font quelque chose de particulier. C'est le deuxième personnage du syndicalisme, Abe, qui est son sidekick, donc qui n'est pas le héros, mais qui est en fait le personnage positif. Et lui, il incarne le syndicalisme, la lutte. Il incarne celui qui est toujours en train de renvoyer aux travailleurs. C'est lui qui a les discours de où il remet le personnage principal sur les rails, où il lui rappelle ce que c'est que lutter, pourquoi il lutte. Et en fait, ce personnage, tout au long du film, a un discours politique et lui rappelle ce que c'est. Et c'est lui qui fait comprendre que Stallone, il a beau être le héros, ce qu'il fait, il déconne. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est pas pour le spectateur. Là, la voix du réalisateur, c'est je vous montre ce personnage comme étant le héros, mais ça ne signifie pas que le syndicalisme qu'il pratique, je sois d'accord avec lui. Et le second personnage incarne ce qu'il devrait être. D'ailleurs, ça, c'est très intéressant.
D'ailleurs, ce que je remarque aussi dans ce film-là, qui est à noter, c'est-à-dire que au tout début, quand Johnny Kovac, donc incarné par Stallone, va aller voir ses relations du milieu du crime, ça va lui être reproché par Abe, certes, mais ça va pas être suffisant pour qu'il y ait séparation entre eux, parce que en face, il faut pas oublier. Qu'est-ce qu'ils ont en face? Ils ont non seulement le patronat, mais ils ont aussi les ligues de l'ordre, c'est-à-dire l'extrême droite qui vient aussi frapper. Ce sont eux qui viennent armés de battes de baseball, la police, bien sûr, mais eux permettent de déclencher les échauffourées qui vont permettre à la police d'intervenir, parce que la police n'intervient pas s'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas de désordre. Or, la Ligue de l'Ordre va être celle qui va créer le désordre et donc donner l'autorisation à la police d'intervenir. Donc, ils perdent un de leurs... d'ailleurs, ils perdent celui qui les a recrutés, si j'ai bien compris, qui se fait tuer à balles réelles. Et à cause de cette situation, il se retrouve à demander... Donc, Stallone demande à un de ses amis qui est dans le milieu du crime de venir les aider parce qu'ils ont besoin d'hommes et d'armes pour pouvoir se défendre. Et d'ailleurs, la reprise du piquet de grève est très violente. On n'a pas affaire à une grève comme on peut encore en voir aujourd'hui. Encore. Ça, on ne sait pas trop dans les années à venir, mais en tout cas, ce n'est pas encore d'actualité, mais vraiment dans les modes de grève du début du XXe siècle, c'est-à-dire avec des morts et des coups de feu. Mais ça ne sera pas suffisant pour Abe, c'est-à-dire ce moment-là où il y a une demande du syndicat du crime de venir aider le syndicat du travailleur, ça ne sera pas suffisant. Là, au moment où il va quitter, où Abe va quitter Stallone, c'est vraiment le moment où Johnny va prendre ses intérêts personnels et les mettre en avant par rapport à l'intérêt du travailleur. Parce qu'il, comme l'a dit Amélie, grimpe dans les échelons. Du coup, les criminels, l'organisation criminelle va lui proposer des intérêts personnels, une villa pour son mariage, plein d'intérêts personnels. Et c'est au moment où il accepte que Abe va se retirer en disant non, là par contre, je ne peux pas accepter ça. Et je pense qu'en ça, le personnage est très intéressant parce qu'il nous pose vraiment la problématique que devait sûrement se poser le réalisateur, à savoir jusqu'à où on peut se compromettre dans le syndicalisme.
C'est là où la mise en scène de ce film est très forte, parce que dès le départ, on sent que Stallone, c'est lui qui va emmener les foules, etc. Et que, de toute façon, c'est un peu à l'américaine, c'est qu'on est sur le tout repose sur son charisme, et à partir du moment où il monte au pupitre et qu'il commence à lancer ses discours, là, il emporte les foules, et c'est comme ça que ça semble devoir fonctionner, en tout cas, c'est une des représentations du syndicalisme. Mais très très tôt dans le scénario et dans l'histoire, il place une fragilité, et on sent que cette fragilité va lui exploser au visage. Donc à nouveau, tu l'as souligné, c'est l'intervention de la mafia et donc le fait qu'à un moment donné, il va être rattrapé par la corruption, quoi.
Il y a quand même deux parties dans le film, il fait quasiment deux heures, il y a 50 minutes, 50 minutes. Les 50 premières minutes, on voit des piquets de grève, on voit du recrutement, on voit des discussions avec les travailleurs sur qu'est-ce que vous n'avez pas, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voudriez. On voit les marchandages et la négociation avec le patron qui est refusé et on ne négociera rien. C'est-à-dire que pendant les 50 premières minutes, on voit un travail de lutte qui est fait et on voit des actions, d'ailleurs des actions directes, on voit du sabotage, on voit des actions de sabotage des camions, de filtre des transports, on voit beaucoup d'actions, en fait, d'actions pour les 50 premières minutes. Il y a l'intervention des moyens donnés par la mafia qui est montrée comme émanant de la nécessité, parce qu'on a perdu des camarades et qu'on ne sait pas comment faire autrement. Il est dit, on peut faire autrement en continuant de lutter, mais ça va pas assez vite, donc on va faire intervenir les moyens de la mafia pour avoir plus de moyens. Mais les moyens ne sont pas montrés comme étant... ils sont pas jugés moralement dans le film.
C'est, ouais. C'est là où il est très fort, parce qu'on s'identifie à lui. Oui. C'est qu'on voit très bien où se situe la ligne rouge, on voit très bien qu'il va la franchir, oui. Et quelque part, c'est comme c'est dès le début du film, pour que l'histoire ait lieu, il faut qu'il la franchisse, parce que sinon il n'y a pas de dramaturgie. Et quelque part, on se pose un peu en même temps que lui les mêmes questions. On se dit oui, effectivement, face à l'ultra-violence qu'il y a en face du monde capitaliste et avec tous les moyens qu'ils ont, la seule chance qu'il a pour se défendre, c'est de faire appel à ceux qui ont les flingues. Et ceux qui ont les flingues, à ce moment-là, c'est la mafia. Donc c'est là où, d'un point de vue narratif, le film est intéressant, parce qu'il nous... Il nous amène à réfléchir, bien sûr. Il nous fait nous poser des questions, mais quelque part, on s'identifie complètement à ce personnage principal et on est embarqué à faire la connerie avec lui, en fait, en quelque sorte.
Les 50 minutes suivantes du film sont 30 ans plus tard et sont une présentation de voilà ce qui se passe 30 ans plus tard quand on a accepté de transiger. Voilà à quoi on aboutit. C'est-à-dire qu'il y a un saut dans le temps et une première partie de lutte, en fait. Et il y a, voilà ce que ça donne dans les années 70, quand on a fondé tout un syndicat et toute une pyramide de pouvoir dans le syndicat sur avoir franchi la ligne rouge. Eh ben, on a affaire aux commissions sénatoriales, on va vérifier les comptes, on a affaire à... Mais ce qui est intéressant, c'est que la narration oppose quand même ces pratiques qui sont donc problématiques, mais qui sont à des vraies pratiques de corruption, qui, elles, sont éliminées par le syndicat parce qu'ils éliminent dans leur rang les vrais corrompus. Donc il y a un jugement du réalisateur sur voilà ce qu'est ce syndicat, mais ils savent eux-mêmes qu'ils auraient dû faire mieux. Là,
Je me permets d'intervenir pour quand même rappeler que ce n'est pas uniquement une fiction, hein, ça parle quand même de quelque chose qui a réellement existé aux États-Unis. Hein,
très adapté. Mais
voilà, tout à fait.
Ça parle de Jimmy Hoffa,
c'est-à-dire la branche du syndicalisme, du syndicat, excusez-moi, des transporteurs des États-Unis, qui a été quelque chose d'un des plus gros syndicats qui a existé, surtout dans la fin. Surtout dans le milieu des années 80, 70, 80, enfin non, 60, 60, 70 aux États-Unis, avec, on parle de plusieurs millions de personnes syndiquées, avec un pouvoir sur le transport aux États-Unis, avec. Voilà.
Mais dont les membres étaient effectivement proches de la mafia. Le film, en fait, commence en 1936 et la fin du film se place dans les années 70. Donc on a une chronique. Voilà, donc il est intéressant et il est à cheval entre... il parle de la mafia comme sur les quais, mais il nous introduit le film suivant, Blue Collar, parce que il y a un point commun de montrer ce syndicat très pyramidal, ce syndicat très pyramidal, sauf que Blue Collar va aller plus loin.
Blue Collar, c'est donc le film de Paul Schrader. Alors, Paul Schrader, bon, tout le monde connaît. Il avait notamment écrit quelques temps avant le scénario de Taxi Driver. Donc c'était en 76. Le Taxi Driver a été primé à Cannes. Donc je pense que ça avait dû permettre aussi à Schrader d'avoir un petit peu les mains libres pour arriver avec ce film, qui là, pour le coup, va encore un peu plus loin dans l'analyse et dans la contestation même. C'est quand même un film qui va très loin. Alors, Paul Schrader, il est quand même dans la dynamique, hein, de cette de cette fin du nouvel Hollywood. Alors pour situer le contexte, donc on a trois ouvriers hein, qui sont dans une usine de fabrication de voitures à Détroit, et donc qui ont des difficultés pour payer leurs factures. Hein. Là on a quelque chose qu'on pourrait tout à fait à laquelle on pourrait tout à fait s'identifier aujourd'hui. Et bon, une nuit, ils ont l'idée d'aller braquer le local syndical parce qu'ils sont persuadés que les coffres du local syndical sont remplis. Donc évidemment, tout ça, ça va tourner à l'échec parce que il y a pas grand-chose dans le coffre. Il y a quelques centaines de dollars.
$600.
Mais du coup, le syndicat, lui, va déclarer 10 000 dollars à son assureur. Et donc, du coup, il va y avoir comme ça une enquête d'un côté pour les retrouver, mais en même temps, c'est préférable qu'on n'en sache pas trop et qu'on sache pas trop qu'il y a eu 10 000 dollars qui ont été estorqués aux assureurs par le syndicat.
C'est un film de braquage, en fait, mais dont le braquage est en fait un prétexte, hein, très très vite. C'est la chronique du délitement un petit peu du rapport entre ces trois hommes. C'est que ces trois travailleurs qui ont trois vies différentes. Il y a deux noirs, un blanc, c'est ça, c'est très important parce que c'est abordé dans le film vraiment frontalement. L'un est célibataire, les deux autres ont une famille à charge, ils ont des statuts différents, mais ils ont les mêmes intérêts. C'est un peu le seul des trois films où il y a une notion de classe sociale qui émerge, je trouve. Oui. Ils ont les mêmes intérêts parce qu'ils sont travailleurs. Et les trois n'ont pas le même rapport à leur union, donc à leur syndicat. Et ils ont des loisirs qui sont volés. Et qui sont bien mises en scène. On montre bien ce que c'est que voler du temps quand on est un travailleur dans le monde des voitures. C'est vraiment le travail à la chaîne très éreintant. Et ça va être le délitement de cette union avec trois choix face à ce qui se passe. Ne pas transiger et être tué. Parce qu'on a parlé de violence, mais il y a une très très grande violence dans ce film-là, comme dans le précédent. Mmh. Une violence qu'on voit, on assiste à une scène assez longue de mort qui est très dure, parce que c'est une mort au travail, orchestrée, mais au travail, sur le lieu de travail. Et c'est.
Plusieurs scènes montrent d'ailleurs le travail dans l'usine. Hein.
C'est un point commun de ces trois films, hein, de montrer le travail en usine, avec le bruit, avec le... Il y a des dialogues qu'on n'entend pas parce que le bruit est dessus. Enfin, ça, c'est... Donc il y en a un qui ne transige pas et qui va mourir, un qui va... qui va accepter de rentrer... de se dire, je vais rentrer dans le système et je vais changer les choses de l'intérieur. Et le troisième,
délégué syndical.
Voilà, c'est-à-dire devenir délégué syndical dans le cadre d'un syndicat corrompu. Et le troisième qui va décider de dénoncer auprès de la police en sachant que c'est trahir, mais pour sauver sa vie. Donc c'est trois parcours et c'est le délitement d'un intérêt commun.
Alors ce qui est très frappant aussi dans ce film, c'est que dès le début de l'histoire, on a l'impression d'être dans un univers où finalement c'est frustration sur frustration à tous les niveaux. Tous les personnages sont un peu prisonniers de leur rôle, que ce soit les ouvriers, que ce soit le contremaître, que ce soit même les membres du syndicat. Et on a l'impression que c'est impossible de faire bouger les choses en fait. Tout est grippé, tout est verrouillé. Alors contrairement à Fist où justement on est en train plutôt de raconter une histoire comme ça, c'est presque une success story, hein, même si à la fin c'est la chute. Mais les choses vont aller de mieux en mieux. Le syndicat va se développer. Il y a une espèce de dynamique. Les choses sont en train de changer pour le monde du travail. Là, dans Blue Collar, c'est le contraire. C'est un film qui peut paraître très pessimiste par beaucoup d'aspects, parce que on sent qu'il y a aucune issue de sortie. Et quand tu le soulignes effectivement, ce personnage. Je me rappelle plus du nom du personnage, mais ce personnage qui joue le rôle de l'ouvrier noir, hein, lui il le rappelle bien. Ses problématiques à lui sont pas du tout les mêmes que celles de l'ouvrier blanc. Et là, il a une occasion de sortir son épingle du jeu. Et donc lui, il dit je vais la saisir. Et tu vas voir, je vais rentrer dans le système, mais je vais réussir à changer le système de l'intérieur. En tout cas, lui, c'est le.
Film-là, c'est un peu un coup de poing. Les dialogues sont enfin vraiment faut les écouter. On aurait dû vous les passer. C'est-à-dire que il y a des reprises de dialogue dans le film, en début de film et en fin de film, pour montrer qu'ils n'ont pas la même valeur. Il y a les personnages qui discutent pendant une réunion syndicale en disant ma famille, ta famille ne vaut pas plus que la mienne, nos familles, les familles des autres ne valent pas moins que les nôtres. C'est-à-dire un discours de tous ensemble. Et ça, c'est repris à la fin pour dire mais ma famille, ta famille, elle vaut pas plus que la mienne. Le même discours est repris pour dire donc c'est normal que je veuille m'en sortir moi. Donc il y a un pendant entre les deux discours. Et de la même manière, la fin, enfin, je ne sais pas si on parle tout de suite de la fin, mais la fin, c'est un peu un coup de poing. C'est que ce film, il a l'air de dire quelque chose qui nous, en tant que cénétistes, ne nous va pas. C'est-à-dire, c'est un constat, mais c'est un constat avec lequel on ne peut pas être d'accord. Ce film, il nous dit, il n'y a que deux possibilités. Soit on transforme les choses de l'intérieur, on se fait avoir, et en fait, on devient un nouveau contremaître, parce qu'on voit ce travailleur devenir un capot à la fin, en fait. On le voit, et la scène finale est terrible. Soit donc on refuse et on meurt, mais ça c'est un non-choix. Soit on trahit sa classe, parce que parler aux flics c'est trahir sa classe hein, dans les films. On trahit sa classe et on dénonce le syndicat et il n'existe plus, hein, pour le mettre à bas. Et la scène finale, c'est ces deux oppositions, ces deux choix qui sont une alternative impossible, et ces deux personnes qui étaient amies, mais vraiment amies, qui s'insultent en utilisant des insultes de classe, de race, de tout. C'est là, ça se termine par une violence verbale, enfin, en version française, je pense que c'est encore pire, où ils s'insultent, sale polonais, sale noir, c'est très très dur. Et là, il y a un cut, il y a un arrêt de la bande-son, et il y a, comme scène finale, le dialogue du début de leur camarade mort qui dit « La compagnie oppose le jeune au vieux, oppose la nouvelle recrue à l'ancienne, oppose le noir au blanc. » Et ça se termine comme ça. C'est-à-dire que ce que ce film dit, c'est oui, il n'y a que deux options. Mais en fait, il n'y a pas que deux options. Ces deux options, elles sont créées. Et elles sont créées contre le travailleur. Et rien dans le film ne laisse penser que ça va être que ce message-là va être dit d'une manière aussi... C'est-à-dire que tout le film, c'est on magouille ou on magouille pas. Et à la fin, c'est non. Si vous en êtes arrivé à avoir ce choix-là, c'est parce qu'on a fait en sorte que vous n'ayez que ce choix-là. Fin du film. C'est extrêmement fort et ça marche extrêmement bien.
Contrairement à Fist, je compare à nouveau les deux films. Contrairement à Fist, où il y a beaucoup de scènes d'action, beaucoup de scènes de bagarre, finalement, dans Blue Collar, il y a assez peu de violence. Alors, il y a à un moment donné une scène presque burlesque, puisqu'il y a un ouvrier qui veut se venger contre la machine à café qui l'arnaque tous les jours. Donc, il va aller défoncer la machine à café avec le chariot élévateur. Voilà. Mais ça, c'est plutôt une scène comique. Alors après, il y a la scène de la mort, donc du troisième pauvre Blaon, mais c'est plutôt une scène qui est très dure, ouais. Mais qui est pas violente dans le sens où il y a pas d'explosion, il y a pas de voilà, c'est très
c'est une violence psychologique, voilà, dans ce film,
tout à fait. Donc il meurt tout seul dans sur son lieu de travail suite à un piège qu'on lui a tendu. Et effectivement, tout au long du film, en fait, en le revoyant, on voit que c'est quasiment tout le temps tourné en plan fixe. En fait, c'est des cadres fixes et on voit bien que les personnages sont enfermés dans ces cadres et qu'ils ont du mal. Il y a très 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 peu de mouvement de caméra, donc c'est voilà, on ressent, voilà, c'est presque quelque chose de sensitif. On ressent cette frustration, cet enfermement. Et voilà, donc après, tu l'as souligné, ce plan fixe final, c'est au moment où tout va péter que le film s'arrête. Il arrête avant de montrer l'explosion finale. Donc ça crée aussi, ça donne aussi une ouverture sur...
Il y a un gros travail sur la bande sonore. Il n'y a pas de... La musique qu'on voulait vous faire écouter, mais que vous n'écouterez pas, c'est à... qu'on a voulu vous passer en tout début d'émission, termine le film juste après cette grande plage de silence qui elle-même arrive après le bruit des machines. C'est-à-dire qu'on a le bruit des machines, tous les plans sont serrés et sont en intérieur dans l'usine, donc on est dans l'enfermement, avec le bruit des machines en fond sonore en permanence, avec des personnages qui, quand ils s'expriment, crient, sont obligés de crier tout le temps pour aller au-dessus des machines. Donc des mots très durs et des mots d'insultes sur des bruits de machines. Et tout à coup, le silence, ce dialogue et la musique. Donc, il y a un très gros travail sur le son dans ce film aussi.
Voilà. Et bon, ça donne envie. Hein.
C'était un peu le but.
Ouais.
Malheureusement, vous connaissez déjà la fin.
Oui.
Donc voilà.
Oui, mais on après, a raconté intégralement les trois films.
Ce sont des films quand même qui sont qui méritent d'être vus, non pas pour uniquement leur scénario, mais aussi pour ce qui nous font ressentir d'un point de vue esthétique, mais aussi en tant que travailleurs, parce que comme il a été dit, ce sont des films qui nous parlent du travail et pas uniquement du syndicalisme. Enfin, c'est le syndicalisme. Ça n'exclut pas le travail, hein, puisque c'est dans le travail qu'on a cette lutte et donc cette nécessité du syndicat. Union, hein, attention, hein, on est bien d'accord. En américain, on parle de union et non pas de syndicate. Justement, toute la confusion qu'on peut retrouver dans Fist ou sur les quais peut venir de cette différenciation qu'on a, cette différence entre le vocabulaire américain et le vocabulaire français. Union veut dire syndicat dans notre langue à nous, alors que syndicate, c'est la mafia, hein, c'est le syndicat du crime. Pour revenir sur Blue Collar, il y a aussi cette opposition noir-blanc, mais aussi police-syndicat, et ce qui est reproché à celui qui va aller parler à la police, à savoir l'ouvrier polonais, c'est que lui, il a ce luxe de pouvoir aller voir la police parce que cette police va être capable de l'écouter. Alors que celui qui choisit de se compromettre en devenant délégué syndical, excusez-moi, c'est un peu les propos du film. Il ne choisit pas vraiment, c'est ce qui est dit hein, dans le film, parce qu'il est noir. Et en tant que noir, il ne pourra jamais être écouté de la police. La première chose, il le dit, la première chose que va faire la police, c'est lui taper dessus. Et je pense que c'est aussi, outre uniquement la vision du syndicat, il y a aussi la vision du rapport de force qu'on peut avoir avec d'un côté le patronat, qui peut être aidé par l'extrême droite, mais aussi de l'autre côté l'État, la police, qui elle œuvre contre le syndicat, quel que soit le syndicat, que ça soit un syndicat mafieux ou un syndicat installé ou un syndicat honnête. Finalement, la vision de la police à chaque fois, c'est quelque chose qui va s'opposer au syndicat de fait.
Je fais un tout petit point en t'entendant parler sur le fait que là, on dit il se compromet en devenant délégué syndical. C'est terrible d'entendre, de nous entendre nous dire ça. On ne va pas associer toute personne déléguée syndicale à une compromission.
Évidemment.
Là, on est dans des films aussi, il faut quand même remettre dans le contexte américain. Et c'est un peu ce que dit Blue Collar, ce qu'il arrive à montrer. Il parle quand même à un public américain, donc des gens qui... Alors que pour nous, c'est quelque chose qu'on découvre en fait en France, mais un public américain qui est que tout a été fait pour qu'il y ait les travailleurs, il y ait le patron, il y ait les travailleurs, et qu'en fait, on ne laisse exister les syndicats que s'ils étaient un organe de co-gestion qui ne posait pas trop de problèmes et qui permettait de faire tampon. Ce qui n'est pas le cas en France, mais aux États-Unis, donc on est en 78, n'ont réussi à émerger que les syndicats qui arrivaient à se placer en tampon. Voilà. Donc, il parle de délégué syndical dans un syndicat qui, on le voit dès le départ, a comme rôle de gérer des petits problèmes de la vie quotidienne, de changement de matériel, mais surtout pas les problèmes d'hygiène et de sécurité, surtout pas les vrais problèmes d'abus, et qui, de temps en temps, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans, va faire un grand mouvement et va obtenir des choses. Et il rappelle que ces syndicats ont obtenu l'embauche des personnes noires, par exemple, ont obtenu des assurances, ont obtenu des augmentations de salaire. Mais il y a des grands moments comme ça de grosses demandes. Et en dehors de ces grands moments de grosses demandes, ce sont des syndicats qui sont là pour faire tampon. Donc il faut remettre dans le contexte américain. Hein.
Ce qu'on voit dans Fist, voilà. D'ailleurs. Hein, dans Fist, oui. On a plusieurs moments de négociations syndicales où la négociation se fait de manière dure et où on se rend compte que, la négociation face au patronat, elle n'est pas si simple que ça. C'est pas une relation d'individu à individu à égalité. Et toute la force que peut dégager le personnage qu'incarne Stallone dans ce film, c'est justement le fait que déjà, il ait ce charisme-là, mais aussi qu'avec lui, il a des millions de syndiqués qui vont pouvoir faire grève derrière et donc pouvoir dire au patron... Vous êtes des mauvais businessmen parce que vous ne prévoyez pas que vous allez perdre encore plus d'argent avec une grève qui va s'imposer parce que vous ne voulez pas une augmentation de salaire. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, de montrer que, en fait, la force du syndicat, c'est aussi cette lutte pour avoir des droits.
Alors, faudrait, comme on va bientôt devoir arrêter l'émission, il faudrait faire une émission particulière sur le syndicalisme spécifique aux États-Unis. Mais la base de tout ça, c'est que les luttes qui sont obtenues, hein, notamment par l'AFL, etc., dans les grands syndicats américains, n'ont jamais donné lieu à des lois générales. C'est que la base de l'obtention de quelque chose dans le syndicalisme américain, c'est de l'obtenir pour sa branche, voire même son usine, et de ne jamais obtenir de loi encadrant le travail qui soit généralisé. Et c'est ça qui donne cette couleur particulière. Une grosse lutte va permettre d'obtenir quelque chose à un moment donné ponctuellement, mais ne va pas permettre d'obtenir quelque chose qui soit, c'est jamais gravé dans les reins, mais qui obtienne un gain pour toute une catégorie de travailleurs. C'est la grande différence avec ce qu'on a obtenu par la lutte, dans les luttes qu'on connaît. Enfin, ça fait une grosse différence, et donc ça fait une représentation du syndicat qui est forcément différente.
On va conclure, notamment avec film de Antonio qui s'appelle Voyage en tête étrangère et qui sera projeté le samedi 16 décembre au cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès à Montreuil. C'est à quelle heure? C'est à 16h.
C'est à 16h, oui. Donc c'est le film dont je parlais en introduction, puisqu'il a été préparé après le confinement, donc 2020-2021. On avait fait quelques répétitions, quelques castings aussi au 33 rue des Vignoles, et on avait même dû en catastrophe tourner une scène sur place dans la grande salle du 33 rue des Vignoles. On a monté un décor. Ce film là, on en est à peu près depuis un an et demi à peu près 35 sélections en festival un peu partout dans le monde. Et on a beaucoup de difficultés à le montrer en France. Alors j'insiste, c'est un film de fiction qui a été fait, alors c'est peut-être la raison pour laquelle on a du mal à le montrer en France, c'est qu'il a été fait notamment avec des membres de collectifs de sans-papiers. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des personnes migrantes qui sont, pour certains, sans-papiers, qui sont surtout des militants au sein de collectifs. Mais ça reste... Oui, il y a un film de science-fiction également, donc je n'en dis pas plus, mais en tout cas, vous pouvez venir le voir le 16 décembre à 16h au Méliès de Montreuil. Il n'y aura peut-être pas d'autre occasion de le voir en France, donc c'est le moment ou jamais.
Et je terminerai aussi avec une annonce plus modeste à Villejuif, à la Bourse du Travail de Villejuif. Donc ce sera le 24 novembre. La Bourse du Travail de Villejuif, c'est 16 rue Jean Jaurès. Il y aura à 20h une projection du film de Ken Loach, moi, Daniel Black. Voilà, c'est gratuit. Vous êtes invités à venir nombreuses et nombreuses. C'est organisé par le comité de lutte interprofessionnelle de Villejuif, par la CGT, par la CNT, Solidaire et d'autres organisations politiques et syndicales. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y aura un débat juste après avec un buffet en mode auberge espagnole. Donc, n'hésitez pas à venir aussi avec votre nourriture.
Voilà, donc l'émission micro-ondes des syndicats CNT du Val-de-Marne se termine. Désolé pour les pauses musicales qui n'ont pas pu être passées à l'antenne. On se retrouve, on compte vous retrouver sans faute le 31 décembre à 15h30 pour la prochaine émission. Et à toutes et tous, bonne continuation.
En pleine improvisation, il est 10h58-59, c'est-à-dire 16h58-59, hein, parce qu'on n'a pas changé d'heure encore ici dans nos belles pendules, mais ça va venir. Bon, on va commencer le mélange sur Radio Libertaire, 89.4 FM, avec l'un des anniversaires du jour. Attendez, j'essaie de me trouver mon bon truc là, voilà, ça marche bien. L'anniversaire du jour, et puis, écoutez, hein, on verra.
Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues. Des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora,
et je m'endormirai. Tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier, l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras. Jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi, la porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
Les collègues m'avaient prévenu que cette machine, elle était défectueuse, donc en direct et sans filet, on change de machine de manière à ce qu'on puisse entendre The Natural Element Quartet d'une façon plaisante et agréable avec Bodies Are Flow.